tu as la sensation, Evelyne, que Lesbia se détermine comme revue féministe, y compris, au vu des articles de fond dont tu viens de nous parler et ceux que tu as lus toi aussi dans d'autres exemplaires de la revue.
Oui. Même si la revue n'est pas toujours d'accord, ou les personnes qui font la revue ne sont pas toujours d'accord avec d'autres positions, d'autres féministes ailleurs. Mais elle se définit comme féministe, absolument.
Et un débat, puisqu'elle se situe par rapport à d'autres mouvements, donc un débat est enclenché dans certains articles.
Oui. Et par exemple, elle nous parle, dans le dernier numéro aussi, des comment les femmes salvadoriennes, qui depuis janvier, bon, on a fait la paix, enfin il y a des accords, je ne sais pas s'ils sont définitifs, au moins provisoires de paix au Salvador, dans lesquels on a passablement oublié les femmes qui ont pourtant tellement participé à la guerre civile du Salvador et qui ont été tellement blessées, meurtries, mortes, etc. Donc, elles ont vraiment participé à cette guerre. On les a oubliées dans les accords de paix et les arrangements qui se font maintenant pour la reconstruction, disons, de la reconstruction de la société civile là-bas. Et il semble que les femmes salvadoriennes s'organisent dans une certaine orientation féministe aussi, de prendre conscience de leurs conditions d'exploiter, etc. Et donc, Lesbia en parle. Donc là, il ne s'agit pas du tout de femmes salvadoriennes lesbiennes. Elle parle d'un mouvement de femmes qui tentent à sortir de leur exploitation, où elles veulent se libérer, acquérir une meilleure formation, tous ces problèmes-là, qui sont toujours à l'ordre du jour dans tous les mouvements féministes. C'est pour ça que je dis, pour ça et d'autres raisons, que c'est un journal à tendance féministe. Ce qui n'empêche pas qu'elles se sentent quelquefois mal comprises, ces féministes lesbiennes, par rapport aux féministes non lesbiennes.
Mais ça, je crois que c'est le problème, effectivement, avec le mouvement féministe lesbien, et que ce n'est sûrement pas un hasard qu'on le retrouve au travers des articles écrits dans Lesbia, parce qu'on le retrouve souvent dans les débats qui concernent cette question-là.
Hade ikke vår fem manne ord, sa det linde marmor og steinare, ha et graverosens fåle i vigde jord. Han ringde i sine silketømmare.
Alors, Annette, on passe à notre troisième revue. Quelle est celle que tu nous proposes là maintenant ?
Alors, il s'agit ici d'une revue qui est tout à fait féministe, alors on le dit d'emblée. C'est d'ailleurs contenu dans le titre. Il s'agit donc de la chronique féministe qui est publiée à Bruxelles. Et je crois que j'aimerais commencer en rendant un véritable hommage à l'équipe de l'Université des femmes de Bruxelles qui, depuis 1982, rédige régulièrement cette chronique féministe à raison de 4 numéros par année. Et on peut peut-être relever que d'ailleurs l'année passée, en 1991, elles ont consacré un article à la grève des femmes du 14 juin de Genève. Et je crois que c'est...
De la Suisse.
Oui, de la Suisse, pardon. Effectivement, je me suis trompée, mais bon.
Parce qu'on est genevois-centrique.
Voilà. Je retire. Effectivement, d'ailleurs, ça s'appelait... Exactement, j'ai retrouvé le titre, ça s'appelait « Rêve belge et femmes suisses ». Donc, c'était bien clair qu'il s'agissait de la grève des femmes en Suisse. Et ça, je trouve que c'est d'ailleurs très sympathique et très solidaire de leur part. Je crois que ce n'est pas inutile de le relever. Ces revues sont assez épaisses.
Hein? Je vois là, mon Dieu, il y a.
Elles vont d'ailleurs, il y a en fait 78 pages en moyenne. Il y a énormément de choses dans ces revues. Peut-être je vais commencer par la fin et préciser qu'il y a aussi toujours des renseignements, des adresses sur, par exemple, les librairies dans différents endroits de la Belgique francophone ou wallonne. Il y a des adresses pour rejoindre des mouvements féministes de nouveau dans certaines régions. Il y a des bureaux de coordination, des bureaux où on s'occupe aussi donc, de la réinsertion professionnelle des femmes, des maisons, des cafés, un accueil dans certaines situations pour les femmes battues, par exemple. Il y a aussi des adresses concernant la possibilité d'avoir des renseignements en cas de problème d'avortement ou de contraception. Donc, c'est un journal qui se veut, dans ce sens-là, quelque chose de tout à fait actuel et utile à toute femme qui l'achète. Ça, c'est un premier aspect de cette chronique féministe. L'autre, et qui est pour nous quand même le plus important, c'est qu'il s'agit d'un journal qui est rédigé par une équipe de femmes qui ont la possibilité qui ont du temps pour lire, réfléchir, analyser et qui ont vraiment toute une dynamique de réflexion sur certains sujets. Donc, elles choisissent des sujets qui sont quand même parfois, enfin souvent, assez touffus, assez compliqués. Et j'ai peut-être parlé des deux derniers qui sont donc disponibles à la librairie et qui nous donnent des renseignements qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est parfois, il y a par exemple des références de livres dans ces revues qu'on ne peut pas trouver ailleurs.
Donc, clairement, c'est l'orientation universitaire qui prime dans cette revue-là.
Je pense. En tout cas, c'est sûr qu'il y a là toute une dimension de recherche correspondant aux fameuses Women Studies qui n'existent en fait pas vraiment en Suisse romande et qui nous aident beaucoup, je crois, pour déterminer un certain nombre de problèmes. Alors, l'avant-dernière revue s'appelle « Matheuse ». Et bien sûr qu'il y a des revues, par exemple en France, d'information professionnelle, d'orientation professionnelle, où on consacre chaque fois un ou deux articles à des recherches de pointe sur le fameux choix professionnel des filles, plutôt l'orientation scolaire des filles, le fameux handicap qu'elles auraient ou qu'elles n'auraient pas concernant leurs aptitudes en mathématiques, etc. Mais ce sont des revues extrêmement spécialisées que nous ne pouvons pas tenir, nous, à la librairie, et qui sont d'ailleurs rédigées dans un langage pas tellement accessible à des gens qui ne font pas profession de psychologue. Dans la revue, ils sont quand même déjà, j'allais dire, un petit peu prédigérés et ils sont rendus accessibles à toute personne qui s'intéresse un peu au sujet. Ça c'est sûr et c'est clair que là, il y a un choix à faire hein, si on achète cette revue. Donc, dans les matheuses, il y a énormément de choses. Il y a à la fois des rapports de recherche récentes, soit françaises, soit belges. À l'occasion, il pourrait y avoir des recherches suisses. Je pense qu'elles sont tout à fait dans un centre de documentation. Peut-être aussi important de préciser que l'Université des femmes, en fait, gère aussi un centre de documentation. Et on a parlé ici, à l'émission, il y a quelques semaines, du centre de documentation de Genève. Et c'est vrai qu'en regardant ces revues, je rêvais un petit peu de la possibilité pour le centre de produire à l'occasion un ou deux numéros de documents sur des sujets précis et qui pourraient renouveler un petit peu le débat sur certains sujets. Donc, les matheuses sur le problème de l'orientation des filles et des différentes recherches concernant leurs aptitudes. Il y a aussi, par exemple, quelque chose de... Il y a dans ce numéro... un article consacré à la femme d'Einstein, qui a donc par rapport à un livre dont nous avons d'ailleurs parlé dans cette émission il y a un an ou deux, et qui est toujours disponible à la librairie. Donc on retrouve énormément de liens entre les choix de livres que nous faisons nous à la librairie et puis le choix de ces femmes en Belgique.
Je vois qu'il est marqué sur la tranche de la page dossier, par exemple. Et puis ensuite, si on feuillette un peu plus loin, bon, le dossier, il est énorme, hein, faut bien voir. Ensuite, il y a dossier lecture. Ouais. Tu voulais dire ?
Non, effectivement, il y a aussi, à la fin de la revue, toujours, un certain nombre de rubriques Alors, il y a effectivement des rubriques consacrées plus à l'actualité en Belgique. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant en tant que tel pour nous, mais ce n'est pas pour ça qu'on achèterait cette revue. On l'achète effectivement en fonction du dossier traité, qui est, je pense, assez exhaustif. Mais il y a aussi, donc toujours, une revue littéraire qui ressemble un petit peu à notre catalogue à nous. Hein, où, sur une page, on raconte un petit peu, on fait un compte-rendu ou un coup de cœur d'un livre. Il y a ensuite... plusieurs fois, il y a eu des hommages à des femmes féministes, soit nommées universitaires dans une chaire en Belgique, ou des femmes âgées qui disparaissent. Donc, il y a aussi toute une actualité du féminisme vécu actuellement dans ce pays. Et il y a aussi toujours une bibliographie assez complète sur les derniers livres qui ont paru sur différents sujets. Et je pense que ce n'est peut-être pas indifférent de vous donner ici les différents thèmes traités, comme si c'était les rayons de notre librairie. Donc, il y a les études féministes, il y a un certain nombre de livres sur les médias dont on parle, il y a la philosophie, il y a la psychologie, la religion, sociologie, politique et économie, travail professionnel et travail domestique, femmes d'ici et d'ailleurs, témoignages, éducation, enseignement, droit, viol, violence et pornographie, corps, santé, sexualité, maternité, expression artistique, philologie et littérature, histoire et finalement des biographies. Donc on voit que le choix qui est proposé est très intéressant et donc c'est, effectivement ça correspond tout à fait à la démarche que nous avons nous à la librairie quand nous décidons de commander des livres, des nouveautés.
Toi, Evelyne Annette, pardon, qui a lu l'un ou l'autre de cette chronique féministe, les dossiers, c'est vraiment des choses que l'on consulte pas quand on fait un travail en particulier. C'est très creusé, très très approfondi. Il faut vraiment avoir envie de s'intéresser au dossier en particulier pour l'acheter, à ton avis.
Écoute, je pense qu'il faut effectivement, disons, être intéressé au dossier. Il n'est probablement pas nécessaire d'avoir, j'allais dire, des prérequis pour lire ces articles. Ça peut être aussi une initiation ou une première approche d'un domaine. Et après, on peut aller un peu plus loin, alors acheter peut-être un des livres dont elle parle. Mais je pense que c'est tout à fait à la portée d'une femme qui s'intéresserait au sujet traité. Je crois que ce qui compte, c'est d'avoir une motivation. Et j'aimerais quand même citer donc le titre du dernier qui est apparu, parce que ça touche un problème qui est très actuel actuellement, qui est très actuel maintenant en Suisse romande. Il s'agit donc du harcèlement sexuel. Et je crois que effectivement, toutes les personnes qui suivent actuellement ce qui n'est pas encore véritablement un procès en bonne et due forme, mais qui représente réellement un grand problème. Alors cette fois, c'est à Genève et non pas ailleurs. Et ça nous donne vraiment une information très objective, très complète sur le sujet qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que plusieurs fois, on m'a parlé de ce problème, on cherchait des documents. Et en fait, c'est, je pense, dans cette revue qu'on trouvera le plus de documents, de réflexions et peut-être une nouvelle approche du problème, qu'elle soit historique, sociologique, psychologique. Et en somme, on a surtout des idées, mais on n'a pas beaucoup de documentation. Je crois que c'est un problème grave qui touche énormément, dans lequel on a beaucoup de peine à trouver une ligne directrice. On se sent très vite soit coupable, soit méchante. Et dans ce sens-là, je crois que c'est important d'avoir des références de type scientifique. Et c'est ça que l'on trouve dans cette revue.
Et qui ne sont pas liées seulement à la situation de la Belgique, puisque la revue est écrite par des femmes.
D'ailleurs, il y a énormément de références à des ouvrages publiés en France. C'est francophone, en fait. Hein? Il y a aussi pas mal de références à des ouvrages canadiens. On sait que la Belgique et le Québec ont pas mal de liens sur le plan donc, littéraire, sur le plan document. Je pense qu'il y a plus de contacts entre la Belgique et le Québec, en tout cas à lire la revue où il y a toujours des références à des publications québécoises. Nous, quand on essaye à la librairie d'acheter des livres publiés au Québec, c'est la croix et la bannière. C'est tout juste si on n'a pas besoin d'avoir une copine qui fait le voyage. Parce qu'obtenir ces livres par voie disons, de communication aérienne ou maritime, c'est quasi impossible. C'est très compliqué. Et je crois que là, c'est intéressant pour nous d'avoir ce lien avec la littérature québécoise.
Donc, si tu devais relever l'intérêt essentiel de la chronique féministe, c'est justement ces dossiers.
Oui, je pense. Je crois que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Et la bibliographie, qui alors est une ouverture à toutes les publications récentes.
Marie Tiengi Li.
Evelyne, tu as devant toi une autre revue, une quatrième qu'on présente, et qui est aussi alors ouvertement féministe, entre autres, de par son titre.
De par son titre, et même aussi, si on va au dos de la première page, donc elle s'appelle « Cahier du féminisme », celle-là est française. Elle dit ceci. Les cahiers du féminisme se veulent un instrument militant au service des luttes de la femme contre leur oppression dans une perspective socialiste. Voilà, alors c'est clair.
Tout ce qui est plus clair.
Bien que ça ne veuille pas dire que cette revue suit ou approuve toujours ce que dit le gouvernement socialiste en France. Et il y a des prises de position qui s'éloignent pas mal des positions officielles du gouvernement de Mitterrand.
Est-ce que le journal date de 1981 ? Non, pas forcément. Il existait déjà avant, je crois, les cahiers du féminisme.
Oui, oui, c'est la 15e année. Il est publié aux 4 saisons, normalement, printemps, été, automne, hiver. Il vaut dizaines de francs. Enfin, ça évolue avec le prix du papier, etc., de la poste. Et ce qu'on n'a pas dit, mais qui caractérise toutes ces revues qu'on vous présente, il n'y a pas de publicité dans ces journaux. Et celui-ci, il a une cinquantaine de pages et il se caractérise comme chronique féministe par un grand dossier, toujours. Et je pense que là aussi, le premier intérêt, c'est l'intérêt du dossier.
Juste pour reprendre ce que tu viens de dire, Evelyne, le prix qui peut paraître élevé s'explique par le fait qu'il n'y a pas de publicité, j'imagine. Par l'importance, enfin, le document épais, la recherche, etc. Tous ces journaux sont, vous avez l'impression, indépendants. Toutes ces revues vivent de leur propre source de revenus.
Bon, il n'est pas dit exactement comment ils se financent. Le travail est souvent bénévole des rédactrices. Ça, c'est dit dans plusieurs. Par exemple, dans Lesbia, dont j'ai parlé tout à l'heure, toute la rédaction est bénévole. Je ne sais pas exactement les autres, quelles sont les sources de financement, mais évidemment, ça influence le prix. Mais en même temps, si on le compare au prix des livres, aujourd'hui, c'est pas si élevé que ça, finalement. Comme disait Annette, on le prend pour l'intérêt du dossier. Bon, c'est pas exactement la même chose qu'avoir un livre sur le sujet, mais en même temps, on a quelquefois une vue plus générale, moins approfondie, mais plus générale du problème. Par exemple, le dernier numéro de Cahier du féminisme s'occupe du travail de nuit des femmes. Bon, il est vu en partie du point de vue français, dans certains aspects, comme est traité le sujet, mais pas uniquement non plus. On déborde le cadre français parce qu'il y a une partie, par exemple, qui contemple la situation du travail de nuit des femmes en Europe, donc dans les autres pays d'Europe. Et donc, disons, il ne faudrait pas s'arrêter de l'acheter parce qu'en pensant qu'il est trop français. Il est français, évidemment, mais il voit le problème quand même dans sa généralité. et pour dire l'importance, disons, du dossier. Par exemple, celui-là a 19 pages, donc c'est déjà assez considérable, avec bon, quelques photos. Et bon, alors, il pose, il prend le problème par différents bouts. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au travail de nuit des femmes et des hommes? Est-ce qu'on doit se laisser aller dans cette voie qui est de plus en plus empruntée, en fait, de l'accepter, finalement, de plus en plus dans toutes les branches? Alors là, le journal prend position, par exemple, dans un certain nombre de pages, en disant, au fond, il faudrait l'interdire, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, dans tout ce qui ne sont pas des secteurs sociaux où il est absolument indispensable d'avoir du travail de nuit, comme dans certains secteurs de santé ou de la sécurité, je sais pas, des usines nucléaires où évidemment il faut faire de la sécurité 24 heures sur 24. Elles se disent que au fond il faudrait examiner là où il est vraiment nécessaire, indispensable d'avoir du travail de nuit, et là où au fond il n'est pas nécessaire, comme dans le cas de je ne sais plus quelle usine qui fabrique des boulons de je ne sais pas quoi, jour et nuit, et on se demande pourquoi on en fabrique aussi la nuit. Et alors elles disent par exemple, pourquoi est-ce qu'on laisse toujours la décision aux chefs d'entreprise, comme si c'était les seuls qui sont capables de décider de l'utilité ou non du travail de nuit, du point de vue technique, je dirais, de l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à d'autres secteurs de la population de réfléchir à cette question et de prendre la décision?
Donc, à ce que je vois, elles prennent, en fait, les rédactrices ont un parti pris quand elles préparent leur dossier, elles guident, disons, par rapport à aussi des propositions qu'elles font, elles.
Absolument, oui, elles font des propositions. Mais elles donnent aussi des éléments d'information, par exemple.
Yksil jiva utestosal viinasti lynnän jeng. Var du marit så glad i mig som löve i lajan bränn. Det var min. Høyre du jorden i vandreliv, du må ikke tala så. Jeg skulle ha vært her i ei risvoll, jeg må meg så vinke råd.
Et puis elles font un survol de la situation dans toute la communauté européenne. Donc un long dossier de 19 pages, et qui constitue le corps, disons, de la revue. Mais à part ça, il y a quand même d'autres articles intéressants aussi, plus courts, de une page ou deux pages. Par exemple, sur l'avortement, on n'a jamais fini encore de parler de l'avortement. Problème, donc, aux États-Unis, où on fait en arrière, on verra ce que ça devient avec la famille Clinton. Hein, du problème en Irlande. Là aussi, il y a un article sur les femmes et les mathématiques.
Pas au bout du problème.
Il y a aussi un article sur une circulaire qui est apparue en France et qui émanait du gouvernement pour promouvoir de nouveau le service domestique, la domesticité. Hein, pour demander au fond aux familles qui emploient pour le moment souvent au noir des domestiques, leur demander, sous bénéfice de réduction d'impôts, de déclarer leurs employés domestiques et pour ouvrir soi-disant des nouveaux postes de travail officiels. Et là, alors, bon, elles prennent position aussi en disant, mais il semblait qu'on allait dans, vers une libération de ce genre de profession, qu'il y avait de moins en moins de femmes, parce que c'est souvent des femmes, hein, c'est domestique, de femmes au service des femmes à l'intérieur des maisons, et qu'on allait plutôt dans le sens d'augmenter les crèches ou enfin les services publics. Bon. Et puis là, il semblerait qu'on revient en arrière. Il y a aussi un article sur les femmes et l'informatique, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il est parlé, on y parle d'un réseau qui s'appelle Femmes Informatisation et Bureau, qui publie un petit bulletin de 4 pages et aussi des brochures sur certains thèmes spécifiques, par exemple les maladies liées au travail sur un ordinateur toute la journée. Donc, en gros, c'est un réseau qui analyse les effets sur les femmes de l'informatisation et qui serait certainement utile si un jour on a une association ou un syndicat des secrétaires. C'est un type d'information qui leur serait très utile. Il y a l'adresse de ce réseau et où se procurer ces brochures pour qui ça intéresse. Des articles sur la bioéthique, sur maternité et bioéthique, etc. Ici aussi, de nouveau, des notes de lecture, quelquefois des notes sur des films, et puis des nouvelles brèves, de nouveau, concernant des sujets féministes, viol, jugement sur harcèlement sexuel, enfin, tous ces sujets que nous connaissons bien. Alors, voilà, chaque cahier du féminisme a... un dossier différent, je peux peut-être juste en citer un ou deux pour que tu vois. Tiens, j'en vois un qui était sur la fonction publique, puisqu'elle est à l'ordre du jour. Fonction publique, deux points, ton univers inégalitaire. Il y avait un dossier sur l'Allemagne de l'Est, un dossier sur les femmes en Algérie, dossier sur l'extrême droite et les femmes, dossier sur l'Afrique sacrifiée, sur le blues des banlieues, etc.
Donc, je vois que tu trouves cette liste dans la page de garde du numéro qu'on a sous les yeux. Donc, en fait, n'importe quelle femme pourrait se référer à cette liste et recommander le numéro qui l'intéresse au vu du dossier annoncé.
Absolument, oui, oui. D'ailleurs, je dirais que ces revues sont faites pour être achetées, pas pour s'y abonner régulièrement, mais pour être achetées au numéro. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on les vend.
Et par exemple, à la librairie, vous pourriez commander un numéro sur un thème particulier si quelqu'un vous le demandait.
Bien sûr.
Take her time. Emily, she